Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, à la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'évoquer le syndrome de Myhre et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Briac-Thierry. Docteur Thierry, bonjour.
Bonjour à tous.
Docteur Thierry, vous êtes otorhino-laryngologiste au sein du service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale pédiatrique du professeur de Noyelles de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Vous êtes également praticien hospitalier et responsable de l'unité fonctionnelle de chirurgie des voies aériennes au sein de la filière tête et cou pour le centre Malo, le centre de référence des malformations ORL rares. Alors, docteur Thierry, comme vous avez participé également au récent PNDS sur le syndrome de Myhre, quels sont les principaux symptômes ORL rencontrés chez ces jeunes patients qui sont touchés par le syndrome de Myhre ?
Il va y avoir deux grands types d'atteintes chez ces enfants-là. Les premiers, ça va être les atteintes des voies aériennes hautes, disons, qui vont se manifester par des surdités de transmission, des épanchements séromuqueux, toute une symptomatologie audiologique. Et puis, il va y avoir aussi une symptomatologie respiratoire qui va se manifester soit par une obstruction par les végétations, soit des grosses amygdales, soit plus tardivement dans la vie, des obstructions soit du larynx, soit de la trachée.
Et ces symptômes, est-ce qu'ils sont une porte d'entrée pour le diagnostic ?
C'est difficile de répondre à cette question-là parce qu'il y a une certaine partie des symptômes qui sont très aspécifiques. Quand on pense à l'otite séromuqueuse ou l'hypertrophie adéno-amygdalienne, en fait, ce n'est pas ces types de symptômes-là qui vont amener au diagnostic de syndrome de Myhre. En revanche, il y a des pathologies au sein de tous les symptômes qui vont être présentés par ces patients-là qui sont beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus rares et qui vont pouvoir faire penser au diagnostic, ou en tout cas faire évoquer un diagnostic un peu différent d'une pathologie classique. Quand on a une sténose laryngée acquise, par exemple, évidemment, ce n'est pas quelque chose de classique, et ça, on va devoir penser à autre chose. Et pareil pour les sténoses trachéales acquises.
Et quelles sont les prises en charge existantes au niveau ORL pour ces jeunes patients touchés par un syndrome de Myhre ?
Pour les pathologies classiques, on va les prendre en charge classiquement. Donc, quand ils ont des otites séromuqueuses avec un retentissement auditif et qu'ils ont besoin d'avoir des aérateurs, on va simplement poser des aérateurs. S'ils ont des pathologies obstructives nasales parce qu'ils ont une hypertrophie des végétations, on va les enlever. Pareil pour l'hypertrophie amygdalienne et l'amygdalectomie. Et donc ça, c'est une prise en charge qui relève de centres pédiatriques classiques avec des traitements tout à fait simples. En revanche, pour les pathologies obstructives des voies aériennes, donc qu'on a vu soit les sténoses laryngées, soit les sténoses trachéales, on va pouvoir proposer des gestes endoscopique la plupart du temps, donc on va passer par la bouche au décours d'une anesthésie générale, on va pouvoir dilater le larynx ou dilater la trachée. Et ça, c'est ce qu'on fait au début, et c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qui permet souvent de rentrer dans le diagnostic. Et donc au départ, ça va être un geste endoscopique de dilatation, et éventuellement, c'est des gestes qu'on peut réaliser plusieurs fois.
Et en cas de sténose trachéale acquise tardivement, qu'est-ce qu'on peut proposer ?
On est embêté. Parce qu'on va avoir deux mécanismes à l'œuvre en même temps. C'est-à-dire que les patients qui sont suivis pour un syndrome de Myhre, ils ont un enraidissement progressif des articulations. Et quand ils sont grands et qu'ils ont des sténoses trachéales acquises, ça va être plus difficile de réaliser des endoscopies au bloc opératoire parce qu'on a juste du mal à les mettre en hyperextension. En fait, c'est difficile de leur mettre la tête en arrière pour aller exposer le larynx. Donc ça veut dire que on est déjà dans des conditions qui sont difficiles pour aller dilater la trachée. Et la plupart du temps, quand ils ont des sténoses trachéales acquises, ce sont des sténoses qui vont récidiver. Ce n'est pas une situation clinique qui est agréable. Et c'est assez vite des situations complexes. On peut être amené à trachéotomiser les enfants et à réfléchir pour la suite.
Et lorsque ces enfants grandissent, comment est-ce que ça se passe au niveau ORL ?
Alors pour l'instant, ce qui est sous-tendu dans cette question, c'est comment est-ce qu'on fait la transition enfant-adulte ? Et c'est compliqué parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de transition qui est réalisée. Il faut bien se rendre compte que c'est une pathologie rare, évidemment, c'est pour ça qu'on est là, et qu'il n'y a pas de filière active avec énormément de patients et des transitions qui sont bien encadrées et bien réalisées. Pour l'instant, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de garder ces enfants le plus possible dans les services pédiatriques où ils sont dans un cocon pédiatrique, je dirais, et que vers l'âge de 18 ou 20 ans, quand c'est difficile de les conserver en consultation et qu'on peut vraiment plus les opérer parce qu'ils ont dépassé l'âge limite du centre pédiatrique, on les adresse dans une équipe d'ORL qui est rompue à l'exercice, surtout pour moi des voies aériennes. Parce qu'en fait, c'est ça le marqueur déterminant de la suite de la prise en charge. On a dit il y a deux grands types. Il y a soit les atteintes auditives avec les otites séreuses qui vont effectivement les embêter avec la surdité, mais surtout ce qui va être déterminant pour le pronostic, c'est l'atteinte des voies aériennes. Et donc il faut que les équipes qui les reçoivent sachent comment faire et comment envisager la prise en charge des sténoses soit laryngées, soit trachéales acquises tardivement.
Et pour conclure, docteur Thierry, quelle surveillance vous recommandez pour ces jeunes patients atteints par le syndrome de Myhre ?
Le plus souvent, le diagnostic, il n'est pas fait par moi en tant qu'ORL, il est fait par les généticiens, il est fait par les cardiologues, il est fait par les orthopédistes. Une fois que le diagnostic il est posé, on a essayé de faire, bah, justement au sein du PNDS, on a essayé de faire un agenda de suivi qui soit coordonné entre les différentes spécialités et qui nous permette de ne pas laisser passer les enfants au travers des mailles du filet pour les pathologies classiques. Et donc du coup, ce qu'on a, c'est que jusqu'à l'âge de 6 ans, on les voit une fois par an. Ça nous permet de faire un bilan audiométrique, de vérifier qu'ils entendent correctement, de regarder les tympans, de regarder en fibroscopie comment est le larynx, de voir comment il bouge, de voir s'il est infiltré ou pas, etc. Puis ensuite, on fait un bilan à l'âge de 6 ans, ça veut dire avant la rentrée au CP. Et puis, on fait pareil. Et ensuite, on peut espacer un peu. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir 6 ans. Alors, dans le PNDS, on avait mis 11 ans, 13 ans, et puis ensuite, on avait mis 15 ans. Mais l'idée, c'est qu'on va encadrer la scolarité avec les grandes étapes de la scolarité. Donc, c'est l'entrée au CP, c'est l'entrée en 6e. Évidemment qu'on va les voir avant s'il y a des problèmes et s'ils ont des soucis, mais qu'en gros, on encadre un peu la scolarité. Donc, l'entrée en 6e, et puis après, pendant la puberté, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des modifications importantes à ce moment-là, notamment pour l'acquisition des sténoses des voies aériennes. Et donc, ça fait 11 ans, 13 ans, 15 ans. Et puis ensuite, bah, on va voir en fonction de chacun des enfants et puis voir s'ils ont besoin d'être suivis encore et du coup adressés dans une équipe d'ERL qui fait des voies aériennes d'adultes. Du coup, voilà, c'est la surveillance que nous avons recommandée dans le PNDS.
Eh bien, merci mille fois, docteur Thierry, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est le syndrome de Myhre. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.